Si on prend le temps d'imaginer un trajet en voiture à Pékin aujourd'hui, c'est assez révélateur. Il faut quoi? Presque 1 heure dans une circulation hyper dense pour relier les labos d'IA de Haidian au nord-ouest jusqu'au pôle technologique de Yizhuang.
Ouais, c'est un trajet qui marque, surtout quand on regarde par la vitre, en fait.
Exactement. On voit ces immenses boulevards, hein, ces tracés rectilignes de plusieurs voies, et on capte très vite que cette ville, elle n'est pas du tout pensée pour les piétons. C'est pas fait pour flâner.
C'est clair, c'est conçu pour l'ordre pur, pour gérer des flux de masse et afficher une forme de puissance brute.
Et il y a un détail super intéressant. Si on regarde l'écran du GPS sur le tableau de bord, on remarque que des quartiers entiers apparaissent grisés. Ils sont inaccessibles numériquement.
Ah oui, les fameuses zones administratives ou les résidences officielles.
Voilà. Et du coup, la géographie ici, c'est pas juste du béton et du goudron. C'est la matérialisation d'un contrôle politique total sur l'espace.
Et cette sensation physique, cette expérience de l'infrastructure routière chinoise, c'est vraiment la porte d'entrée parfaite pour comprendre l'architecture de leur pensée technologique.
Absolument.
Ce qu'on voit sur la route, c'est exactement la métaphore de la façon dont ce pays conçoit le développement numérique aujourd'hui.
Et ça nous amène directement au sujet de notre exploration du jour. On plonge au cœur du magazine IA Mag numéro 07. C'est une édition spéciale de juillet 2026.
Un numéro qui fait vraiment l'effet d'un électrochoc, faut bien le dire.
Totalement. Leur dossier spécial a un titre qui frappe fort. La Chine de l'IA ou l'IA de la Chine. On n'a plus le droit de dire qu'on ne savait pas.
C'est un titre qui pose le décor.
Ouais. Et l'idée centrale, c'est vraiment d'explorer comment notre futur quotidien est en train d'être sculpté en ce moment même. Et ça, selon deux visions radicales presque opposées. D'un côté, le marché total poussé par les États-Unis, et de l'autre, l'État stratège incarné par la Chine.
C'est le grand affrontement de notre époque, en fait.
Mais avant d'aller plus loin, je veux juste poser un cadre très clair pour cette discussion. Notre but aujourd'hui, c'est absolument pas de distribuer des bons ou des mauvais points. On ne prend aucun parti politique.
C'est crucial de le rappeler, oui.
Qu'on parle de systèmes occidentaux, asiatiques, qui soient orientés à gauche ou à droite, on reste strictement neutre. On est juste là pour rapporter et décortiquer les faits et les visions qui sont exposées dans ce dossier.
Et pour bien saisir la mécanique de ce qui se joue, il faut justement repartir de votre métaphore de l'autoroute pékinoise.
Ok, décortiquons tout ça. Parce qu'il faut vraiment qu'on visualise bien la différence entre les deux.
En Chine, tu vois, l'intelligence artificielle n'est pas du tout conceptualisée comme une aventure sauvage. C'est pas un truc porté par quelques visionnaires dans un garage qui inventeraient les règles au fil de l'eau.
C'est sûr que l'image du garage californien, ça colle pas trop avec Pékin.
Pas du tout. Le développement avance à une vitesse fulgurante, ça c'est un fait indéniable, mais il circule sur des routes, sur des directives qui sont très claires et tracées au millimètre par le gouvernement.
Alors, si je devais faire une analogie pour bien marquer le contraste, on pourrait dire que l'innovation américaine, ce fameux modèle de la Silicon Valley, ça ressemble à un énorme véhicule tout-terrain.
Un gros 4x4, ouais.
Voilà, un énorme 4x4 qui fonce dans le désert sans véritable carte. Il écrase quelques buissons au passage et il trace son propre chemin en espérant, au bout du compte, trouver un filon d'or. C'est la disruption par le marché.
L'image est excellente.
Et en face, l'innovation chinoise, ce serait plutôt un train à grande vitesse. C'est ultra puissant, c'est magnifiquement profilé, mais ça ne peut rouler que sur les rails qui ont été préalablement posés par l'État.
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, l'image du train à grande vitesse est très parlant. Le magazine illustre ça à travers des concepts politiques très précis.
Lesquels, par exemple?
L'État chinois parle de, et je cite, nouvelle force productive. Concrètement, ça veut dire que l'IA n'est pas vue comme une force mystique indépendante. C'est une infrastructure pure.
Donc on est loin du petit chatbot pour faire ses devoirs.
Exactement. L'objectif, c'est pas de créer un outil amusant pour le grand public. L'objectif, c'est d'intégrer l'algorithme directement dans les ports de Shenzhen pour automatiser toute la logistique.
Ah oui, c'est du lourd, hein.
Ou dans le réseau électrique, pour gérer la charge à l'échelle nationale. Ou encore dans les usines pour la maintenance prédictive. En gros, l'IA est mise au travail.
Mais attends, je t'arrête sur l'analogie du 4x4 américain. Est-ce que ce mythe du marché libre et complètement sauvage est vraiment exact?
C'est une très bonne question.
Parce que quand on regarde la réalité de la Silicon Valley, des entreprises comme Palantir ou même OpenAI aujourd'hui, elles sont profondément imbriquées avec le Pentagone. Elles signent des contrats de défense faramineux.
Oui, les ponts sont nombreux.
Donc, le gouvernement américain finance aussi indirectement cette course, non? L'idée d'un 4x4 totalement indépendant me paraît, enfin, un peu romancée.
Tu as tout à fait raison de soulever ce point. C'est pas un marché pur, dénué de toute intervention étatique. Le gouvernement américain arrose l'écosystème de capitaux, surtout via la défense d'ailleurs.
c'est bien ce qui me semblait.
Mais la différence fondamentale réside dans l'impulsion et la gouvernance. Aux États-Unis, c'est l'entreprise privée qui garde le volant.
C'est elle qui donne la direction.
Voilà. C'est l'entreprise qui propose la vision, qui crée le besoin. Et l'État se positionne souvent comme un client ou un facilitateur.
D'accord, je vois la nuance.
Alors qu'en Chine, l'État est l'architecte. Il ne se contente pas d'acheter la technologie, il définit la finalité de cette technologie bien avant même qu'elle ne soit développée.
Donc le gouvernement pose les rails et les ingénieurs construisent la locomotive pour aller exactement là où les rails s'arrêtent.
C'est exactement ça.
Mais l'article soulève un contre-argument vachement intéressant à travers ce qu'ils appellent l'avocat du diable américain.
Oui, c'en est un point crucial du dossier.
Ils expliquent que, même si ce train va très vite, ce modèle ultra-contrôlé a une faille majeure, non ?
Bah, c'est le prix à payer pour l'ordre, en fait. La perspective américaine, telle qu'expliquée dans le magazine, pointe un vrai problème.
Lequel ?
Si une technologie est trop strictement cantonnée aux directives d'un plan quinquennal, elle gagne une capacité d'exécution phénoménale, c'est sûr. Mais elle perd ce qui fait l'essence même de l'innovation de rupture.
La capacité à dévier.
Exactement. Les plus grandes découvertes émergent très souvent du désordre, d'une expérience qui tourne mal ou d'un usage complètement imprévu par le marché.
C'est le propre du 4x4, de faire du hors-piste.
Tout à fait. Et un train sur des rails ne fera jamais de hors-piste. Il ne peut pas inventer une destination qui n'a pas été validée par le comité central.
Ouais, c'est très logique. Et ce contrôle strict de l'infrastructure physique et technologique, ça nous amène à une autre frontière. Une frontière bien moins physique, mais franchement beaucoup plus frappante.
Tu parles de la communication, IA ?
Exactement. Si l'État décide de la direction technologique, cela dicte aussi qui a le droit de parler et ce qu'ils ont le droit de dire. Quand on analyse la façon dont les acteurs de l'IA prennent la parole publiquement aux États-Unis par rapport à la Chine, c'est le jour et la nuit.
Le contraste est sidérant, ouais. Si on observe l'écosystème occidental, les personnalités qui incarnent cette technologie se présentent d'une manière bien spécifique.
Ce sont des prophètes, ni plus ni moins.
C'est le mot juste.
Je veux dire, on regarde Sam Altman, Elon Musk, Demi Hassabis. Dès qu'ils prennent un micro, c'est jamais pour nous parler de lignes de code.
Non, c'est beaucoup plus dramatique.
Ils nous parlent du destin cosmique de l'humanité, du risque d'extinction de notre espèce, de l'avènement d'une IAG qui va résoudre absolument tous les maux de la Terre.
L'article de IA Mag qualifie ça très justement de « récit de l'IA-Dieu ».
Une IA-Dieu, c'est fort comme terme.
C'est une entité qui fascine et qui terrifie en même temps.
Et en face ?
Ce qui est fascinant ici, c'est l'absence totale de ce type de discours de votre côté du globe. Les chercheurs chinois à la tête d'entreprises extrêmement performantes, des boîtes comme DeepSeek, Moonshot AI ou Minimax, y travaillent dans ce que la source décrit comme une concentration presque monastique.
Des moines de la tech, en gros.
Voilà. Ils ne font jamais de grandes envolées lyriques sur la sauvegarde du monde. Leurs interviews portent sur l'optimisation des puces, l'efficacité des paramètres ou la réduction des coûts énergétiques des serveurs.
C'est très terre-à-terre.
C'est le récit de l'IA outil.
Mais pourquoi ce silence radio sur la philosophie de l'IA ? Je veux dire, c'est quand même pas juste une pudeur d'ingénieur. Ils ont bien conscience de la puissance phénoménale de ce qu'ils sont en train de créer, non ?
Bien sûr qu'ils en ont conscience, mais c'est profondément structurel. La source explique que c'est pas du tout de la modestie. C'est une règle de survie politique.
Ah, d'accord. Le fameux contrôle de l'État.
En Chine, le monopole du sens, la capacité à dicter la vision à long terme de la société et, plus globalement, l'histoire du futur, ça appartient exclusivement à l'État et aux partis.
Donc, pas de place pour un gourou de la tech.
Exactement. Un entrepreneur technologique, même s'il est multimilliardaire, ça reste un exécutant supérieur. Si on devait le formuler simplement, le milliardaire écrit le code, mais c'est l'État qui écrit l'histoire.
C'est une sacrée nuance, hein.
Prétendre dicter le destin de l'humanité depuis la scène d'une conférence tech, comme on le voit tous les 4 matins dans la Silicon Valley, ce serait perçu comme une usurpation de pouvoir intolérable à Pékin.
Ok, je comprends mieux la dynamique chinoise, mais je vais me faire l'avocat du diable à l'envers sur ce discours américain.
Vas-y.
Tout ce bavardage mystique sur l'IA-Dieu, sur la fin du monde ou le salut de l'humanité, on est bien d'accord que c'est avant tout un énorme mécanisme financier, non ?
C'est-à-dire ?
Pour lever 50 milliards de dollars auprès de fonds d'investissement de la Silicon Valley, on ne peut pas juste débarquer et dire « Salut, je fais un super logiciel qui résume bien les emails ».
C'est sûr que ça fait moins rêver les investisseurs.
Il faut leur vendre le feu de Prométhée. Du coup, est-ce que c'est pas juste une stratégie commerciale brillante, mais déguisée en philosophie de comptoir ?
Le dossier aborde exactement cette dynamique. Le grand récit spectaculaire, c'est le moteur même du modèle économique occidental.
Ça me rassure, je ne suis pas la seule à le penser.
La puissance financière de ces entreprises repose entièrement sur leur capacité à promettre une révolution totale. L'entrepreneur, il est obligé de se muer en démiurge pour justifier des valorisations boursières qui sont, disons-le, souvent irrationnelles.
Ouais, on parle de milliers de milliards parfois.
Mais le magazine pointe un problème systémique très lourd là-dedans.
Lequel ?
Lorsque ces dirigeants parlent au nom de toute l'humanité et qu'ils orientent les capitaux mondiaux, bah ils le font sans aucun mandat démocratique. Ils n'ont aucune légitimité politique pour prendre ces décisions.
Personne n'a voté pour eux.
Exactement. Et surtout, ce grand récit messianique américain, il sert une autre fonction beaucoup plus pragmatique vis-à-vis des législateurs.
Ah, la fameuse arme diplomatique. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Tu penses à l'argument de la menace externe ?
Tout à fait. Pour justifier le fait de ne pas avoir de règles, ce grand discours américain a besoin d'un adversaire. Et cet adversaire idéal, bah, c'est la menace chinoise.
C'est l'épouvantail parfait.
J'adore la façon dont le magazine décortique ça. C'est exactement le principe du monstre caché sous le lit.
C'est une super métaphore.
C'est l'enfant qui explique à ses parents. Surtout, laissez la lumière allumée toute la nuit, laissez-moi manger des bonbons et ne m'imposez aucune règle pour dormir, sinon le monstre caché sous mon lit va sortir et nous dévorer tous crus.
C'est tout à fait ça.
Sauf qu'ici, l'enfant capricieux, c'est la Silicon Valley et les parents, ce sont le gouvernement américain et les régulateurs.
C'est une mécanique implacable. Le chantage qui est imposé par les géants de la tech à Washington, il est explicite.
Ils leur disent quoi, en gros ?
Ils disent « Si vous nous freinez avec des lois sur la protection de la vie privée, si vous imposez des audits de sécurité complexes ou si vous ralentissez notre accès aux données, bah la Chine, elle, ne s'en privera pas. Et c'est elle qui gagnera la guerre du siècle. »
C'est malin. Et c'est redoutable.
L'évocation de la Chine fonctionne vraiment comme un coupe-circuit dans le débat démocratique.
Donc la géopolitique devient l'excuse ultime pour privatiser la puissance technologique.
C'est un formidable levier de négociation. Et cela crée une immense contradiction, qui est d'ailleurs très bien identifiée dans l'article.
Laquelle ?
D'un côté, ces entreprises privées exigent la dérégulation totale. Elles veulent le marché pur pour avancer sans aucune entrave.
Le fameux 4-4.
Voilà. Mais de l'autre, elles réclament l'aide de l'État sous le sceau de la sécurité nationale. Elles veulent qu'on subventionne la fabrication de puces électroniques, qu'on sécurise leur approvisionnement énergétique et qu'on bloque la concurrence étrangère.
C'est quand même fascinant d'hypocrisie. En gros, c'est « Ok, laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire nos règles, mais payez nos infrastructures de défense avec l'argent du contribuable. »
C'est exactement le paradoxe.
Le dossier fait d'ailleurs intervenir un point de vue très tranché à ce moment-là du récit. Un point de vue qu'il nomme « l'avocat du diable russe ».
Ah oui, la perspective de Moscou.
Et vu de là-bas, tout ce grand débat éthique américain sur l'IA pour le bien de l'humanité versus la dictature chinoise s'est perçu comme une gigantesque pièce de théâtre.
La perspective russe, telle qu'elle est rapportée par la source, est d'un cynisme absolu, il faut l'avouer. Mais elle offre un prisme d'analyse intéressant.
Comment ils voient ça, eux ?
Pour eux, l'intelligence artificielle n'a intrinsèquement aucune dimension morale. Qu'elle soit emballée dans des discours grandiloquents sur les droits humains en Occident ou dans des concepts d'harmonie sociale en Chine, ça reste un simple vernis de communication.
Du marketing étatique, en somme.
Voilà. Sur l'échiquier russe, l'IA est évaluée comme une force géopolitique brute, au même titre que l'arme nucléaire ou les réserves de gaz naturel.
C'est juste un outil de pouvoir.
C'est un multiplicateur de puissance. Puissance militaire, informationnelle et économique. Pour eux, les débats éthiques sont perçus comme des luxes de pays riches qui essaient simplement de justifier et de maintenir leur hégémonie.
C'est une vision assez glaçante, on va pas se mentir, mais le magazine concède tout de même un point à cette approche géopolitique.
Sur l'innovation, n'est-ce pas ?
Ouais. Historiquement, la peur de l'adversaire a toujours été un carburant incroyable pour l'innovation technologique.
C'est indéniable.
Sans la guerre froide et la peur des soviétiques, on ne serait probablement jamais allé sur la Lune. La compétition acharnée force les écosystèmes à se dépasser.
C'est exact. La friction géopolitique génère des budgets quasi illimités. Mais l'analyse met en garde contre l'effet pervers de ce phénomène aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
À force d'utiliser la menace de l'autre pour accélérer, sans jamais mettre de vrais garde-fous, le risque pour les sociétés occidentales est de se réveiller un matin dans un monde où quelques entreprises privées seront devenues de véritables infrastructures publiques mondiales.
Des États dans l'État.
Pire que ça, elles géreront l'information, structureront le marché du travail, orienteront la décision publique, le tout complètement hors de portée du vote citoyen.
Donc, on sacrifie notre souveraineté interne pour s'assurer qu'on gagne la course externe. C'est un pari risqué.
Très risqué, oui.
Et pendant qu'on se chamaille sur ces questions de régulation des algorithmes, la course elle-même est en train de muter de façon spectaculaire.
On passe au matériel.
Exactement. On quitte l'abstraction des lignes de code planquées sur des serveurs climatisés pour entrer dans le monde physique, le monde matériel. Le journaliste de IA Mag nous emmène à Hangzhou.
Le cœur des usines de robotique chinoise.
Notamment chez le fabricant Unitree. Et là, l'histoire prend littéralement corps.
Ce passage du dossier est sans doute le plus viscéral, vraiment. La matérialisation de l'intelligence artificielle dans un corps de robot humanoïde, ça modifie complètement notre rapport intime à la technologie.
C'est plus du tout le même délire.
L'article décrit super bien la différence entre regarder une prouesse technique sur son téléphone, affalée dans son canapé, et la vivre en trois dimensions.
Le journaliste raconte ce moment précis où il se retrouve physiquement dans la même pièce avec un robot humanoïde de taille adulte.
Ça doit faire bizarre.
Il explique qu'on a tous vu défiler ces fameuses vidéos virales de robots qui font des sauts périlleux arrière ou qui dansent en rythme sur YouTube.
Oui, tout le monde a vu ça.
Derrière nos écrans, ça nous fait sourire. On trouve ça mi-impressionnant, mi-gadget. Mais face à la machine, en vrai, le ressenti est radicalement différent.
Il y a un côté très intimidant.
L'auteur explique qu'on l'entend respirer.
Respirer, c'est-à-dire ?
On perçoit le sifflement aigu des servomoteurs, les micro-ajustements mécaniques constants pour qu'il garde son équilibre sur ses deux jambes. On ressent physiquement le poids de cette masse d'acier et de câbles qui partagent notre espace vital.
Ça donne des frissons.
L'IA n'est plus un programme caché dans le cloud, c'est une entité physique qui a une présence. Une présence de prédateur ou de collègue, selon le point de vue qu'on adopte.
Et c'est précisément l'objectif industriel majeur de la Chine aujourd'hui. L'idée pour eux, c'est pas de faire des vidéos virales rigolotes, c'est de préparer ce qu'ils considèrent comme le futur moment iPhone de la robotique.
Ah, le moment où tout bascule.
Exactement. La stratégie chinoise, c'est de répliquer méthodiquement le succès écrasant qu'ils ont eu, par exemple, sur le marché des véhicules électriques.
Ils veulent inonder le marché.
Tout l'appareil d'État se met en ordre de marche. Les directives gouvernementales flèchent les financements. Les gouvernements locaux construisent des usines géantes de la taille de petites villes.
La fameuse locomotive sur ses rails étatiques.
Et à côté, les sous-traitants produisent des capteurs et des batteries à des coûts absolument imbattables. Tout l'écosystème s'organise dans un seul but, inonder le monde de robots humanoïdes à bas coût.
La locomotive est prête à foncer, c'est clair. Mais soyons pragmatiques une petite seconde.
Je t'écoute.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement ? L'article soulève un doute très concret sur cette frénésie.
Sur l'utilité réelle.
Exactement. Aujourd'hui, en dehors du théâtre technologique et des belles démonstrations d'équilibre, est-ce que ces machines servent vraiment à quelque chose ?
C'est la vraie question.
Parce qu'un robot humanoïde qui plie des t-shirts à deux à l'heure dans un labo immaculé, est-ce que c'est viable économiquement pour remplacer un ouvrier sur une chaîne d'assemblage complexe ou pour soulever des patients lourds dans un hôpital ?
C'est la faille potentielle du récit chinois. Le gap entre l'exploit technique d'ingénierie et l'utilité réelle sur un marché de masse, il est immense.
On l'a vu avec d'autres technos par le passé.
Historiquement, un produit de rupture technologique, comme le smartphone dont on parlait, il devient incontournable lorsqu'il résout un problème quotidien de manière plus efficace et surtout moins chère que la solution précédente.
C'est la base de l'adoption de masse.
Or, aujourd'hui, un robot humanoïde coûte extrêmement cher à produire. Il reste fragile, il nécessite une maintenance constante par des experts. Et dans une usine, honnêtement, un bras mécanique spécialisé, même non humanoïde, fera toujours le travail beaucoup plus vite.
Donc on est encore dans cette phase un peu bizarre où on construit un objet extrêmement complexe et ensuite on cherche à quel problème il pourrait bien répondre.
C'est souvent le risque avec la tech poussée par l'offre.
Mais le dossier introduit ici une troisième perspective. Après les avocats du diable américain et russe, voici l'avocat du diable européen.
La voie de la régulation et de la prudence.
Exactement. Il vient dire en gros, attention, ne vous fiez pas au fait que c'est balbutiant ou un peu maladroit aujourd'hui. Il faut s'en préoccuper dès maintenant.
Cela soulève une question importante sur notre capacité d'anticipation collective. L'approche européenne souligne que l'enjeu, c'est pas seulement de deviner si la Chine parviendra à faire baisser les coûts de production à l'avenir.
L'enjeu est beaucoup plus vaste.
L'enjeu est sociétal, et il touchera directement notre quotidien à tous. Si ces robots finissent par être suffisamment fiables pour entrer massivement dans l'industrie logistique, ils redéfinissent immédiatement la nature même du travail manuel.
C'est tout le code du travail qui saute.
Et pire encore, s'ils franchissent le seuil de nos maisons en tant qu'assistants à domicile ou aides-soignants pour les personnes âgées, ils redéfinissent la sphère privée, la sécurité domestique, l'intimité.
la présence constante d'une machine connectée chez soi.
La mise en garde européenne est très sévère. Et si nous attendons que l'infrastructure soit déployée à grande échelle et que les usines tournent déjà avec des milliers d'humanoïdes pour commencer à nous interroger...
Ce sera trop tard.
Oui. Si on attend d'en être là pour débattre des lois du travail, de la responsabilité pénale en cas d'accident ou de la gestion des données ultra-privées captées dans nos salons, bah le rapport de force sera déjà perdu.
C'est clair que réguler un produit qui est déjà physiquement dans le salon de millions de personnes, c'est mission impossible. On l'a bien vu avec les réseaux sociaux sur nos téléphones.
Absolument.
Et cela nous ramène à la thèse centrale de ce dossier vraiment vertigineux de IAMAG. Au fond, ce qui se joue entre le modèle américain et le modèle chinois, c'est la définition de notre propre place dans la société de demain.
C'est l'enjeu philosophique majeur.
Si on résume la pensée de l'article, si l'avenir est dicté par le marché total de la tech américaine, motivé par des promesses messianiques et la nécessité absolue de lever des fonds,
alors la place réservée à l'humain est celle d'un simple consommateur, un client du système.
Voilà, on est des clients.
À l'inverse, si ce futur est imposé par la vision d'infrastructures étatiques chinoises, où la technologie est avant tout un instrument de l'ordre et de la puissance géopolitique,
l'individu devient un administré, une simple donnée statistique dans une gigantesque équation d'optimisation nationale.
C'est pas beaucoup plus réjouissant ?
Non, c'est clair. Et le vrai danger, si ces questions super complexes sont balayées par des arguments de sécurité nationale du type « ne réfléchissez pas, la Chine ou les États-Unis vont nous manger »,
l'urgence qui tue le débat,
c'est que la population se transforme en simple spectateur. On regarde les géants jouer notre avenir au dé sans avoir notre mot à dire. C'est pour ça que l'article plaide pour une troisième voie.
C'est l'issue proposée par le dossier, en effet. L'idée qu'il faut cesser de sacraliser l'IA comme un dieu intouchable à l'américaine.
Ni la réduire à un outil de domination industrielle à la chinoise.
Voilà. L'objectif, c'est d'en faire une véritable institution démocratique. Ce qui implique que la société civile, bien au-delà du cercle restreint des ingénieurs et des politiques, s'empare des mécanismes techniques.
Pour exiger de la transparence et décider collectivement des limites acceptables.
Exactement. Il s'agit de reprendre le volant du véhicule, que ce soit un 4x4 ou un train à grande vitesse.
C'est une belle image de conclusion. Mais pour clore cette exploration et pousser la réflexion un cran plus loin que l'aspect purement économique ou géopolitique, j'aimerais partager une dernière pensée.
Vas-y, je suis curieux.
On a beaucoup parlé d'infrastructure, de régulation, de pouvoir, mais prenons le pari un instant que l'incarnation physique de l'IA réussisse parfaitement.
Que les humanoïdes deviennent parfaits, quoi.
Ouais. Imaginons que dans 5 ou 10 ans, ces robots humanoïdes deviennent si fluides, si performants grâce à leur modèle de langage intégré qu'ils s'intègrent sans aucune friction dans nos domiciles ou nos centres de soins.
C'est le rêve des constructeurs.
Imaginons qu'ils ne soient plus là seulement pour porter des cartons lourds, mais qu'ils deviennent de véritables confidents mécaniques. Une présence toujours disponible à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Le compagnon parfait, en somme.
Une entité programmée avec une patience absolument infinie, capable de simuler de manière algorithmique la perfection de l'écoute et de l'empathie.
Ça fait réfléchir.
Si l'on s'habitue à interagir quotidiennement avec une machine qui sait simuler l'empathie absolue, sans jamais s'énerver, sans jamais montrer la moindre lassitude, sans jamais formuler le moindre jugement moral, qu'est-ce que ce confort artificiel va modifier dans notre propre psyché ?
C'est une question vertigineuse.
Finirons-nous par être tellement anesthésiés par cette douceur mécanique qu'on ne sera plus du tout capable de tolérer les aspérités de nos propres relations humaines ?
C'est le risque, oui. L'intolérance à l'imperfection.
Si la machine devient le nouveau standard de l'interaction apaisée, est-ce que la véritable empathie humaine, avec toutes ses maladresses émotionnelles, ses sautes d'humeur et sa fatigue, ne finira pas par nous paraître insupportable ?
Ça prouve bien que l'ultime transformation ne se fera pas sur les lignes d'assemblage en Chine, mais à l'intérieur de nous-mêmes.
Le plus grand défi de l'intelligence artificielle ne sera peut-être pas de savoir si elle peut dépasser l'humain, mais de savoir si elle nous donnera encore envie de rester humain.
C'est une conclusion parfaite.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des rouages de demain. Continuez d'être curieux, remettez en question les évidences qu'on vous vend et on se retrouve très bientôt pour décrypter ensemble de nouveaux horizons. À la prochaine !